Alors restez avec nous au pupitre ou ici, comme vous le souhaitez, pour échanger avec la salle. Il y a deux micros qui vont passer, si vous le souhaitez, pour réagir sur cette présentation. Peut-être que vous avez besoin d'informations complémentaires, à moins que vous souhaitiez exprimer une opinion, hein, pour dire que bah oui, ça vous paraît intéressant, ou inversement, vous pensez ça peut-être dangereux, cette manière d'aborder les choses, qui sait ? Alors on va commencer par monsieur, merci de vous présenter, et allez-y pour la première question.
Bonjour, je suis le docteur Dunia, je suis le monsieur bébé du professeur Poinceau que vous entendrez demain matin à propos des questions d'autisme à l'assistance publique hôpitaux de Marseille et au centre hospitalier de Montfavet un jour par semaine. Je voulais essayer d'apporter une contribution à votre... un exemple, en fait, une contribution assez concrète et qui nous rapproche de ce que disait Yvan tout à l'heure sur la question des bébés. J'ai été vraiment enthousiaste à l'idée que d'entendre dans la bouche d'un collègue l'idée qu'il y a une psychiatrie du bébé, de l'enfant et de l'adolescent, BEA et non pas seulement enfant et adolescent. Et l'adaptation de la courbe de Ekman que vous montrez était tout à fait parlante, c'est-à-dire, elle était peut-être difficile à voir pour les gens qui étaient au fond, la période où on investit le moins, c'est la période où le cerveau se déploie, en embryologie d'ailleurs, et se développe le plus rapidement. Cette courbe est évidemment tout à fait ancienne. Les collègues pédiatres américains s'appuyaient là-dessus dès les années 80, comme Barry Brazelton, pour insister sur la nécessité de travailler auprès des enfants. Et donc, je voulais attirer l'attention de ce public auquel je n'ai pas complètement l'habitude de m'adresser sur l'existence dans le champ de la psychiatrie périnatale, puisqu'il existe une psychiatrie périnatale qui prend à la fois en compte l'enfant et les parents, de cette démarche que vous avez présentée de façon que j'ai trouvée personnellement limpide. En effet, vous avez évoqué les guides NICE, dont je ne suis pas complètement sûr que tout le monde soit informé de l'existence, mais dans le domaine de la psychiatrie périnatale, on dispose d'une épidémiologie des troubles. On sait que les troubles psychiques chez la femme ne conduisent jamais autant à une hospitalisation qu'en période postnatale. On a une épidémiologie qui, évidemment, n'est pas française, parce qu'il n'y a pas d'épidémiologie en France. On sait qu'il y a des dispositifs de soins. Ces dispositifs de soins existent de façon un peu plus coordonnée en Angleterre qu'en France, mais qui sont efficaces pour la mère et pour l'enfant. Donc non seulement ces traitements sont faisables, mais on a des preuves, celles dont vous parliez, de l'efficacité, preuves sur l'état clinique de la mère, preuves sur leur capacité de répondre au bébé, preuves sur le développement à court et à moyen terme, jusqu'à 15 ans, des situations de ces enfants. Et donc, on a toute raison de penser que des soins psychiques conjoints, coordonnés, gradués, et si possible, le plus économique possible, sont possibles. Ceci a conduit, dans le cadre de la refonte de la psychiatrie publique britannique, à une chose dont j'espère que ça deviendra une réalité. Monsieur Cameron, puisque c'était sous Cameron, était le représentant, si on peut dire, d'une refonte assez complète de la psychiatrie en Angleterre. Un tiers du milliard de livres accordés entre 2015 et 2020 à la réforme de la psychiatrie en général a été consacré à la pédopsychiatrie. Un collègue qui a le bon goût d'être entièrement francophone et totalement britannique, Alain Grégoire, a monté, s'appuyant sur une étude de la London School of Economics, et donc ayant prouvé, l'auteur s'appelle Annette Bauer, B-A-U-E-R, c'est évidemment accessible en ligne, c'est relativement synthétique, a prouvé qu'on pouvait, en investissant seulement 360 millions de livres, économiser 8 milliards de livres. C'est l'investissement productif dont vous parliez, monsieur Haim, à l'instant. Je voulais donc attirer votre attention sur le fait que les collègues britanniques ont généralement, dans le domaine de la psychiatrie périnatale, une vingtaine d'années d'avance sur les Français. Il n'est pas interdit de s'appuyer sur ce que font nos collègues britanniques. Qu'ont-ils fait? Et j'en termine. Ils ont, territoire par territoire, regardé où il existait dans les maternités des psychiatres spécialisés dans la psychiatrie périnatale. Ils ont regardé, toujours sur les territoires, où il existait des dispositifs de soins ambulatoires d'hospitalisation de jour, et ils ont regardé où il existait des soins d'hospitalisation conjointe mère et bébé pour répondre à ce pic de pathologie psychiatrique, avec toutes les conséquences que ça a sur l'enfant. Ayant établi une carte qui a été brandie à la Chambre des communes par certains des députés, ils se sont appuyés sur un mouvement qui rassemble la société civique, un peu comme si l'ensemble des associations partenaires de la CISM se saisissaient de la question de la psychiatrie périnatale. Et le plan est en train de se déployer avec à la fois un travail de soins de proximité qui nous évoque effectivement la PMI dont vous avez parlé, mais à la fois, bien sûr, une ou deux créations d'unités d'hospitalisation conjointe, donc des dispositifs coûteux, mais placés à l'endroit où il y en a besoin. Je reviens en France brièvement en disant que les dispositifs d'hospitalisation conjointe parent-bébé qui existent en France sont répartis de façon totalement aléatoire et que les dispositifs de soins ambulatoires en périnatalité, mère et bébé, des soins conjoints, sont eux aussi répartis de façon totalement aléatoire, à tel point qu'aucune administration centrale ne serait capable de dire actuellement où il existe des unités de soins ambulatoires intensifs parents-bébé, ce que les professionnels eux-mêmes, les praticiens eux-mêmes, essayent de faire actuellement avec le soutien du COPIL de Yvan. Merci de votre attention à cette question de la psychiatrie périnatale et de son impact sur le développement des adolescents dans 15 ans. Un minimum de prospective est vraiment utile.
Merci de votre témoignage particulièrement intéressant. Peut-être un petit mot quand même sur ce que vous nous avez présenté en termes d'organisation. Ça suppose quoi ? Faut être anglo-saxon pour, comprendre ce mode de fonctionnement intellectuel avec cet échange sur les connaissances et sur l'état de la recherche.
Merci pour votre complément qui est vraiment très enrichissant et qui fait effectivement un lien un peu plus concret. Avec cette notion, je me sens un petit peu moins hors sol dans ces présentations. Donc, est-ce qu'il faut être anglo-saxon pour réfléchir de cette façon ? J'en sais rien. Les anglo-saxons ont quand même toujours eu une approche un peu plus pragmatique sur la gestion budgétaire et la recherche. Ils faisaient des expérimentations aléatoires de grande ampleur dans les années 50, alors que c'est le droit français a permis de le faire uniquement à partir de 2007. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement un petit décalage. Maintenant, en réalité, je ne suis pas si sûr que ce soit complètement incompatible, notamment parce qu'on peut tirer profit, on a l'avantage du retard d'une certaine façon, on peut tirer profit de ces expériences-là pour les rendre adaptées au contexte français, à la mentalité française si particulière. Et en fait, on se rend compte qu'on en a besoin. Les professionnels... exprime de façon assez régulière un malaise, un grand besoin de davantage de moyens, de davantage de ressources. L'État met la pression pour que ces ressources soient le mieux employées. Et on a peut-être, à travers l'apport de la recherche, une façon un petit peu habile de réconcilier ces deux approches, de rendre la vie des praticiens plus simple, plus agréable, plus en leur dotant de ressources adaptées, tout en apportant davantage de résultats entre guillemets ou d'effets pour le politique, pour que celui-ci accepte davantage de conférer au milieu les moyens dont il a vraiment besoin.
Monsieur.
Oui, Pierre Michelletti, je suis enseignant à l'IEP de Grenoble et membre du Conseil national de santé mentale. D'abord, je voudrais remercier les concepteurs de ces journées du choix thématique de la pédopsychiatrie, parce que je trouve que s'il y a un objet de réflexion dans le champ de la santé publique qui est intéressant aujourd'hui sur les questions d'équité, sur les questions d'accessibilité, c'est bien celui de la pédopsychiatrie publique. Une des rares spécialités médicales hospitalières pour lesquelles il y a une préoccupation de maillage territorial et d'offre de soins hors les murs, sur une spécialité qui, rappelons-le, effectue 97% de ses actes hors l'hôpital, cette question du maillage territorial est primordiale. Donc merci pour le choix de cette thématique, parce qu'au-delà du champ et des discussions spécifiques telles qu'elles s'amorcent sur des préoccupations propres à la pédopsie, il y a à travers les discussions de ces deux jours, des réflexions qui interrogent des enjeux d'offres de soins qui dépassent la spécialité de la pédopsychiatrie. Alors, il va y avoir d'autres intervenants tout à l'heure. Je veux juste évoquer le sujet, et comme ça aura été fait. Peut-être que ces intervenants y reviendront, mais M. Halimi a expliqué combien la question de l'accessibilité aux soins dans cette spécialité était multifactorielle, faite à la fois de considérations territoriales, de compétences. J'y ajouterai la nécessaire unité de temps et de lieu qu'on doit avoir dans les CMP, puisque les pédopsychiatres ne résument pas l'offre de soins et qu'il faut qu'on ait sous un même lieu différents champs professionnels qui concourent à une bonne prise en charge de l'enfant. Mais en toile de fond de tout ce qu'on est en train d'amorcer comme discussion, qu'on parle d'évaluation économique des politiques publiques, qu'on parle de confort des professionnels de santé, il y en a une qui est fondamentale, c'est que pour que les professionnels de santé éprouvent un certain confort ou pas, il faut qu'ils existent. Et que la question de la démographie professionnelle dans le champ de la pédopsychiatrie, qui va peut-être être réévoquée dans les deux comptes rendus de rapport qui vont suivre ce matin, est une question cruciale, puisque le zéro étant l'élément absorbant de la multiplication, s'il n'y a pas de pédopsychiatre, dans toutes les évaluations qui ont été évoquées ce matin, qu'elles soient économiques ou de performance ou autres, l'évaluation sera vite vue. Merci.
Merci pour cet apport effectivement à la réflexion. Alors, vous avez raison, il en sera fortement question évidemment avec les autres intervenants, puisque on parle d'investissement, donc on parle effectivement de ressources. Monsieur a évoqué tout à l'heure une économie de 300 et quelques millions, un investissement de 360 millions de livres pour une économie de 8 milliards. Hein, j'ai pas rêvé, hein, c'est ça. Est-ce que vous avez des données chiffrées, j'allais dire, effectivement, sur ce qu'apporte cet investissement social?
Alors, Le truc qui va sûrement, en tout cas qui déçoit souvent les personnes avec qui je discute de cette question-là, c'est que, en toute honnêteté, on n'est pas capable de sortir un chiffre unique, un taux de rentabilité interne de la dépense de prévention ou quoi. Et je pense que c'est d'ailleurs de toute façon une très mauvaise idée que d'essayer de le calculer, c'est partir à côté. Maintenant, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait, et c'est d'ailleurs ce qu'évoquait monsieur, c'est... Pour un objectif de politique donnée, on peut mettre en concurrence différents types d'interventions et à partir de là, produire des évaluations qui ont du sens. Alors, comme je vous le disais, je ne suis vraiment pas expert dans le champ, mais j'ai connaissance des travaux, notamment de la Campbell Collaboration, qui est une institution que vous connaissez peut-être, qui est basée à Oslo et qui fait des revues systématiques de littérature et qui a notamment travaillé sur des évaluations de... La méta-analyse d'intervention de prévention pour les troubles du comportement chez l'enfant à travers des thérapies familiales en groupe entre professionnels et groupes de parents. Et de mémoire, cette méta-analyse-là produit des impacts qui sont très significatifs, qui sont très forts. Et les ratios coût-efficacité qui sont proposés dans le cadre de cette évaluation indiquent quelque chose de l'ordre de 1 dollar investi, on rapporte 4 ou 5 sur un cycle de vie. Mais c'est encore une fois au cas par cas qu'il faut réfléchir à ça davantage.
On m'a posé au titre de l'ADESM récemment la question pour un article de savoir si dans nos établissements, et pourtant...
Est-ce que vous entendez ? Non. Il faudrait que vous parliez un peu plus fort, s'il vous plaît.
Je parle plus. Ah, je vais le manger, donc.
C'est Pascal Mariotti, pour ceux qui ne l'auraient pas vu.
Ouais. On m'a demandé dans nos établissements s'il y avait matière à disserter sur des spécificités du management. J'élargirais ça, y compris aux responsabilités du corps médical, etc. Je pense que ce n'est pas qu'une question de directeur. Et là, avec évidence, si on met en corollaire le propos introductif sur les enjeux, les problématiques d'Yvan Halimi et votre présentation qui nous confronte directement à toute une série de choses qu'on a du mal soit à discerner, soit à affronter. On est directement dans le sujet. Et sans être, je l'espère, trop terre-à-terre, moi, je dirais assez brutalement qu'on ne peut plus faire les projets médicaux comme avant. Alors, je n'ai pas la réponse immédiatement. On est tous confrontés, notamment par rapport au champ de la pédopsychiatrie, et ce ne sont pas que les directeurs, évidemment, à cette difficulté de s'affronter à des dispositifs dont on voit qu'ils sont saturés, qui ne fonctionnent pas bien. Les professionnels finissent par le dire et le reconnaître eux-mêmes. Des dispositifs qu'il faudrait développer mais qu'on ne sait pas développer, des processus de transformation qu'on ne sait pas mener à bien. Et on voit qu'effectivement, il va falloir qu'on sache, y compris à l'échelle de chaque établissement, ce n'est pas uniquement une question de politique générale ou une question qui s'aborderait sur de grands territoires uniquement, de se dire quelle méthode on met en œuvre. C'est juste pour poser le propos, mais je pense que ça nous y confronte assez brutalement. Finalement, c'est une très bonne entrée en matière. Et puis pour relancer le propos, je serais tenté de demander à Yvan Halimi comment il voit, puisque cela fait débat, mais que ceci est tout juste balbutiant dans notre pays, la question de l'approche par la preuve dans le champ de la pédopsychiatrie. Et pas uniquement, évidemment, sur l'autisme, mais de façon plus générale, pour savoir comment l'appréhender, comment l'aborder, et l'introduire dans un champ de réflexion dont on voit qu'effectivement, il est plus multifactoriel qu'on ne l'avait imaginé jusque-là, même si on s'en doutait.
Alors, on va commencer par M. M. Donc, ce que vous disiez, M. Mariotti, ça a été un peu évoqué dans votre présentation, puisque vous avez parlé de formation préalable pour que chacun puisse aborder ces nouvelles questions d'une manière plus efficace, c'est ça ? C'est comme ça que ça peut fonctionner pour les directeurs, notamment d'établissements ?
En fait, oui, à mon sens, la formation est un moyen, mais il y a peut-être un préalable qui est à la fois une menace et une opportunité pour cette organisation-là, c'est qu'il y a une tendance un petit peu à plus d'autonomie donnée aux établissements, un transfert de compétences vers plus bas, mais sans avoir forcément un transfert de ressources. Donc là, on bute sur une espèce de double difficulté entre peut-être potentiellement plus de liberté d'exercice, mais en même temps des ressources de plus en plus contraintes avec des difficultés qui ont été évoquées de recrutement, des difficultés de personnel disponible. Ce qui serait pertinent, enfin dans le cadre un peu d'investissement social, c'est la logique générale, ce serait d'avoir quand même quelque part, un peu centralisé, une institution qui soit en mesure de fournir et de proposer des pistes d'amélioration, qu'elles soient managériales, qu'elles soient dans les pratiques, qu'elles soient dans les traitements ou les interventions qui peuvent être mises en place. Et j'ai connaissance d'un projet en cours chez Santé publique France de registre d'intervention qui aurait dans le domaine de la prévention en santé. Donc je ne sais pas si ça couvre le registre de la pédopsychiatrie ou de la santé mentale en général, mais en tout cas, l'idée générale est d'essayer de fournir des outils pour que puissent être mis en œuvre ensuite à travers les agences régionales de santé ce type de dispositif en leur donnant justement des boîtes à outils en disant si vous voulez traiter ce problème-là, voilà une façon de le faire. C'est basé sur la recherche. On a fait une revue systématique de littérature au préalable pour vous permettre de le faire. Je ne sais pas si je suis assez clair.
Docteur Halimi, alors la preuve, ou du moins l'approche par la preuve en pédopsychiatrie, comment vous voyez ça, vous ? Merci de bien mettre le micro devant votre bouche.
Oui, je crois qu'effectivement, l'un des enjeux qui vient d'être posé par M. M, c'est qu'est-ce qui est rentable dans la mesure où finalement, les ressources ne sont pas illimitées, sur quoi on doit mettre l'accent, qu'est-ce qui mérite d'être pris en compte. Et si j'ai insisté au début de mon propos sur le temps qu'il a fallu pour reconnaître la souffrance psychique ou physique de l'enfant, c'est bien pour montrer qu'il y avait la nécessité d'une formation sur cette capacité de reconnaître la souffrance psychique de l'enfant, et on voit bien qu'on parle plus facilement pour l'enfant d'instabilité, de troubles du comportement, de retard, que de dépression ou d'angoisse. Pourtant, je peux vous assurer que des enfants peuvent être déprimés ou angoissés. Et je crois que l'enjeu, par exemple, il est moins, en tout cas dans un premier temps, d'apporter des preuves que de poser les bonnes questions. Et la bonne question, c'est est-ce que les personnes qui prennent en charge les enfants sont formées à la reconnaissance particulière de l'expression de la souffrance chez l'enfant ? Cet enjeu est majeur parce qu'on voit bien que ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire est-ce qu'on va regarder dans la prise en charge de l'enfant les interactions langagières ou bien si les vaccins ont été faits, ce n'est pas tout à fait le même regard qu'on va poser sur l'évolution du psychisme de l'enfant. À partir de là, on voit bien que si effectivement les files d'attente des CMP sont asphyxiées, l'un des enjeux, c'est d'acculturer un réseau dépassant les professionnels de la pédopsychiatrie par des formations leur permettant de repérer très tôt la souffrance psychique de l'enfant. Et je peux vous assurer que le chantier est devant nous. Parce que je prends un exemple dans le champ de l'enfance. Être placé dans un foyer loin de sa famille, loin de ses frères et sœurs, je dirais que, bon, a priori, ça ne doit pas vous conduire à un bonheur merveilleux. Hein. Et donc, la prise en compte des situations à risque au niveau de ces environnements est un chantier qui est devant nous. Parce que si on voit en plus avec des solutions extrêmement pragmatiques, c'est-à-dire qu'on parle dans le plan de santé mentale d'éviter les ruptures chez l'adulte, mais chez l'enfant qui a besoin de continuité dans un environnement fiable et cohérent, c'est ça qui le construit, je dirais ce besoin est décuplé. Et ce souci-là ne peut pas être, je dirais, quelque chose qui est laissé aux aléas des personnes que rencontre l'enfant et qui ont conscience de ces enjeux. Donc, c'est pour ça que je crois que le champ de la protection de l'enfance et ses liens avec la pédopsychiatrie, les pédopsychiatres vont souvent à l'hôpital général, dans une psychiatrie de pédopsychiatrie liaison, qui a du sens, hein, et je crois qu'il faut vraiment la maintenir, puisqu'on voit bien les liens entre la pédiatrie et la pédopsychiatrie. Mais les liens entre la pédopsychiatrie et la protection de l'enfance, alors que je viens de vous dire à quel point il y a là une population qui, en plus, n'a pas accès aux soins. C'est pas ces enfants qui vont être accompagnés par leurs parents soucieux de leur devenir. Bon, donc, on voit bien qu'il y a là une population, je dirais, qui n'a pas accès aux soins, un accès aux soins déjà difficile pour une population pour laquelle les parents sont très présents, etc. Donc, si vous voulez, Pour revenir à la question de la preuve, on voit bien que les personnes sont sujets de leur histoire, de leur environnement. Bon, il ne s'agit pas de nier des évaluations comme celles qui viennent d'être faites. Et d'ailleurs, bon, je les ai citées dans mon propos, celle d'Esping-Andersen et d'autres qui sont quand même dans ce domaine particulièrement probants sur l'intérêt, si je puis dire, de miser sur les petits, ça peut rapporter gros, quoi. En gros, on peut résumer les choses comme ça. Et donc, mais par contre, je crois que l'idée qu'en psychiatrie, on puisse travailler dans autre chose que la complexité et la certitude, je crois que ça mériterait des questions bien plus importantes que celles qu'on vient de poser. C'est-à-dire que, effectivement, si on n'attend que des preuves, on risque de chercher beaucoup. Il faut avoir des preuves. Mais si vous voulez, je crois que quand même la discipline de la psychiatrie qui est au carrefour des sciences sociales, des neurosciences, doit quand même, je dirais d'une certaine manière, si on a du mal à travailler sans se confronter à la complexité et l'incertitude et sans se désorganiser, je crois que le métier de psychiatre, ce n'est pas tout à fait celui-là qui convient. Bon, voilà.
Merci. Madame.
Corinne Martinez de la NAP. Après. Donc, je vais vous parler un petit peu d'un projet qu'on est en train d'ouvrir sur le déploiement des innovations organisationnelles en santé.
Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Si, il marche, il n'y a pas de problème, mais il faut parler.
Corinne Martinez, oui, voilà. Corinne Martinez de la NAP. Donc, je vous parle d'un projet que l'on a ouvert sur le déploiement des innovations organisationnelles en santé. Avant, donc, on travaille sur trois sujets, donc chimiothérapie orale, amélioration après chirurgie, donc réhabilitation améliorée après chirurgie et réhabilitation psychosociale. Ça, c'est donc un sujet, on va travailler là-dessus. On a travaillé aussi, on a voulu conduire une étude sur 5 pays à l'étranger pour savoir comment ils abordaient la question de l'innovation organisationnelle. Mm-hmm. On a retrouvé le NICE, on est donc l'Australie, le Canada, Israël et la Catalogne avec son observatoire qui est un petit peu particulier. Et moi, j'ai eu la chance donc de pouvoir aller au Danemark. Et je voulais juste aborder la question donc des registres, parce qu'ils sont effectivement très en avance sur la question de la prévention. Et alors, moi, je le pose comme un problème éthique au niveau français, c'est la constitution de ces fameux registres dont vous parliez à propos de Santé publique France. Ce sont des registres connectés depuis 1960, c'est-à-dire c'est l'ensemble des bases de données, the gros big data, où alors, c'est toute une question de comment, après, quelle éthique on met pour le traitement de ces données, avec, ils ont mis en place les sécurités. Tout ça semble, de l'extérieur, assez contrôlé. Ce que l'on peut dire, et ils sont bien sûr dans le registre de la médecine de la preuve, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a donc une analyse quasiment en temps réel des déterminants de santé, et qui sont capables, donc moi quand j'y étais au mois de juin, donc le gros sujet qu'ils mettaient sur la table, c'était la question de la reprise des addictions, donc développement des addictions chez les ados. Eh bien, en 6 mois, ils ont mis en place des programmes de prévention donc sur ce sujet, au niveau bien sûr, ce sont les enseignants qui le font, et aussi beaucoup d'utilisation du web.
Merci.
Alors, c'est un problème, donc, là aussi, peut-être, de registre et de temps pour laisser... la question de l'implémentation des innovations, il faut peut-être laisser le temps aussi que ça se fasse.
Merci pour ce témoignage. Alors, justement, la question d'innovation, vous l'avez évoqué, c'est essentiel, hein, je crois, pour cet investissement. Et puis, 2 mots sur les registres. On va aller assez vite, puisque je vois que le temps passe et que c'est l'heure de la pause dans 3 minutes. Alors, rassurez-vous, vous allez pouvoir poser des questions. Il y a madame devant et puis monsieur dans le fond là-bas. Vous faites signe simplement si vous voulez vous exprimer, hein, il n'y a pas de problème. Mais attendez, on va laisser monsieur répondre si vous permettez.
Merci pour votre question. Deux petits points de réponse assez rapides. Ce que j'entendais par registre au départ, ce n'était pas effectivement à la danoise avec en fait un lien basé sur un numéro d'identification qui permet de faire le lien entre les bases fiscales, les bases de santé, les bases de retraite et les bases d'activité. Mais c'est une question qui se pose fortement en France. La circulaire signée par Axel Le Maire il y a quelques années permet un peu plus facilement, enfin en 2016, permet un tout petit peu plus facilement du coup de faire le lien à partir du numéro de sécurité sociale entre des bases de données qui sont pour l'instant décorrélées. Mais pour faire de la recherche appliquée sur ces données, ça reste quand même très compliqué et pour le coup, les enjeux d'éthique sont très très bien cadrés en France. Pour un regard de chercheur un petit peu trop, c'est très compliqué de faire des liens, mais en même temps, c'est aussi très important. Les registres auxquels je faisais référence, c'est vraiment des collectes plutôt de papiers de recherche, davantage que de données individuelles ou sur lesquelles on fait... Là, l'idée, c'est plutôt de faire la preuve pour une intervention donnée de l'ensemble de l'état de l'art sur cette question et de dire si on est capable de dire si ça marche ou pas, dans quelles conditions. Voilà, c'est juste une petite précision.
Madame ?
Oui, je vais être rapide. Je suis le docteur Catherine, je suis pédopsychiatre et je travaille à l'hôpital Alpizère. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit M. Mariotti, M. Micheletti. En tant que médecin, c'est très difficile. On n'a pas les compétences pour réorganiser notre travail. C'est clair que notre organisation ne fonctionne plus. Je m'occupe d'un CMP, d'un hôpital de jour et d'un centre de jour CATTP. On a 9 mois d'attente. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous touchons les populations les plus précaires et les plus pauvres. Car les populations cadre moyen, dans certains CMP, on leur dit « Mais si vous avez une mutuelle, consultez donc en privé. » Alors qu'il y a très peu de pédopsychiatres privés. Donc la situation est quand même catastrophique. On travaille avec les bébés, on travaille avec les PMI, et il faut souligner en France l'extraordinaire intérêt des maternelles, parce que c'est la maternelle qui dépiste et qui envoie les enfants. Donc oui, bien sûr, c'est à repenser, c'est à réorganiser. Moi, je n'ai pas les compétences de le penser, ça. Et même si je les avais, je n'ai pas la capacité de faire changer des pratiques dans des services de pédopsie qui en sont restés aux années 70, quand même. Il faut quand même le souligner, parce que quand vous venez et que vous parlez d'objectifs, que vous parlez d'évaluation, que vous demandez des tests et des chiffres, quand même, tout le monde vous tombe dessus. Donc, au bout d'un moment, on en a assez, on lâche prise, voilà. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup, effectivement, d'avoir des boîtes à outils, mais aussi des gens qui viennent et qui m'aident. Et ensuite, au niveau de nos décideurs, donc des directions, etc., qui vont se charger d'imposer de nouvelles manières de fonctionner. J'en veux pour preuve le fonctionnement des hôpitaux de jour concernant l'autisme. Voilà. Les parents d'autistes nous décrient, nous fuient, alors qu'au contraire, on essaye de se former. Mais ce n'est pas si simple que ça de changer. Voilà. Je ne voulais pas être longue.
Vous souhaitiez dire quelque chose ? Non, pas particulièrement ? Non. On abordera l'ensemble de cette question tout au cours de ces deux jours. Merci en tout cas pour votre témoignage. Très intéressant. Je crois que c'est monsieur Alphonse. Ça sera la dernière question.
Oui, merci. Ce n'est pas une question, c'est une contribution. Alors d'abord, merci à monsieur M de son intervention. Merci à l'ADESME de l'avoir invité là-dessus, parce qu'il y a quelques jours, c'est un peu connexe comme sujet, mais on a été interpellés tous sur le débat autour de la parité. Est-ce que la parité doit être rentable ? Donc, est-ce que la pédopsie, la psychiatrie de l'ado ou du bébé, ça doit être un investissement ? Merci pour votre apport méthodologique. Ça me permet de regarder les choses sous un autre angle. Simplement, merci au docteur qui vient de s'exprimer, parce que je voulais intervenir pour faire écho et reformuler le propos de Pascal Mariotti concernant la façon de s'organiser et d'élaborer les projets médicaux. Effectivement, le chemin est long, le chemin n'est pas facile. Et petite vignette institutionnelle, il est question dans le prochain projet médical de l'établissement public de santé de Ville-Évrard, que je représente, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, d'articulation entre les maternités, parce qu'il y a la question de la parentalité. Donc, aux deux bouts de la chaîne, il y a effectivement la psychiatrie périnatale avec la prise en charge du bébé, mais aussi des deux parents, de la triade parent-enfant. Et puis, à l'autre bout, il y a l'articulation entre la pédopsie et la psychiatrie adulte. Rien qu'en interne, on a du chemin à faire. Et vu la façon dont je vois que les médecins se parlent entre la MCO et la psychiatrie, je crois qu'effectivement, c'est difficile, mais on en prend le chemin.
Merci. Merci pour votre témoignage. On va remercier et applaudir Arthur Haim pour son intervention. On reste avec le docteur Yvan Halimi toute la matinée, bien évidemment. Une petite pause de 10 minutes avant de retrouver professeur Marie-Rose Moreau, co-auteur de la mission Bien-être et Santé des Jeunes, et le sénateur Michel Amiel pour le rapport qu'il a remis il y a quelques mois.